Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Continuons à parcourir les grands astronomes et avançons un peu dans le temps. En parlant de Copernic, je vous ai parlé de la révolution héliocentrique. Mais l'acteur le plus connu de cette révolution, c'est un Italien, j'ai nommé le grand Galilée. Galileo Galilei, plus connu sous le nom de Galilée, c'est l'un des scientifiques les plus célèbres et les plus influents de notre histoire. Il est né le 15 février 1564 à Pise, en Italie, et mort le 8 janvier 1642 à Arcetri, près de Florence, toujours en Italie. Galilée est considéré comme le père de l'astronomie moderne, de la physique moderne et de la science moderne en général. Ses contributions à l'observation astronomique, à la mécanique et à la méthodologie scientifique ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Son père, théoricien de la musique, souhaite ardemment qu'il devienne médecin, profession bien rémunérée. Ainsi, à 17 ans, le jeune Galilée débute des études de médecine, qu'il abandonne aussitôt. Ostilio Ricci, son professeur de dessin, parvient à le passionner pour les mathématiques, termes sous lesquels ont regroupé alors plusieurs de nos disciplines actuelles, notamment l'astronomie et la physique, domaines dans lesquels il excella. Son intérêt pour les sciences naturelles et sa curiosité insatiable l'ont conduit à faire des découvertes majeures dès ses premières années d'études. Excessivement doué, ses biographes racontent qu'en 1583, c'est-à-dire à 19 ans, Galilée aurait découvert l'isochronisme des pendules, simplement en observant les oscillations d'un lustre dans une cathédrale. Il aurait en outre compris tout l'intérêt de cette loi pour la mesure du temps. En 1787, il rencontre le célèbre professeur jésuite Christopher Clavius, nommé l'Archimède du XVIe siècle. Ce dernier se trouve au fait de sa gloire. 5 ans auparavant, il a réformé le calendrier julien en créant le calendrier grégorien, toujours en usage maintenant. Galilée convoite un poste de mathématiques à Bologne. Il impressionne favorablement le père, mais sa tentative échoue. Cependant, en 1589, il obtient du grand-duc de Toscane la chaire de mathématiques de Pise. 2 ans après, Galilée découvre que ses émoluments sont insuffisants. Le décès de son père lui laisse en effet la charge de sa mère et de 2 sœurs très exigeantes. En 1592, il devient professeur de mathématiques à Padoue. Il arrondit sa paye en fabriquant des instruments de navigation, des compas, des sextants. Dès 1597, au moins, Galilée s'intéresse à la chute des corps. D'après la légende, il aurait discrédité Aristote en laissant tomber du haut de la tour de Pise des objets de taille différente, prouvant ainsi qu'ils tombaient tous à la même vitesse, alors que le philosophe grec affirmait le contraire. Parfois, on ajoute que Galilée aurait réuni à cette occasion l'ensemble de tous les professeurs de l'université. Alors s'il est vrai que Galilée a réalisé des expériences sur la tour de Pise, il est assez impensable qu'elles auraient pu avoir une telle solennité. Dans une université si hiérarchisée, on voit mal ses collègues accepter une invitation émanant de l'un des professeurs les moins bien payés pour assister à une expérience sans intérêt. Il y avait longtemps en fait qu'on savait qu'Aristote s'était trompé. La vie de Galilée prend un tournant en 1609, lorsqu'il apprend l'existence de la lunette. Précurseur du télescope, la lunette d'approche aurait été conçue en Italie en 1586, très probablement par l'opticien italien Giambattista della Porta. Ou peut-être, dès les alentours de 1550, par Léonard Digges en Angleterre. Toujours est-il que, le 2 octobre 1608, un opticien hollandais, Hans Lippershey, dépose un brevet pour un appareil permettant, et je cite, « de voir des choses lointaines comme si elles étaient proches ». Le facteur de grossissement est alors entre 3 et 4. Pour ce faire, il a placé dans un tube 2 lentilles, une à chaque extrémité. Les premiers intéressés par ces lunettes seront les militaires qui ont bien vite compris l'intérêt de voir les ennemis arriver de loin. Mais il ne fallut pas longtemps avant que l'on pointe une de ces lunettes vers le ciel. L'année suivante, Galilée s'en procure un exemplaire, probablement à l'occasion de la visite en 1609 d'un marchand hollandais venu présenter l'objet à la Sérénissime. Puis il en fabrique immédiatement une copie afin de la commercialiser. Son intelligence et le professionnalisme de son ouvrier lui permettent de perfectionner rapidement l'instrument. En peu de temps, il disposera d'une lunette grossissant 30 fois. Il a aussi l'idée de les tourner vers le ciel. Il y découvrira que la Voie lactée se compose en fait de nombreuses étoiles invisibles à l'œil nu, que la Lune présente des irrégularités. Et surtout, il voit 4 petits points tournant autour de Jupiter, comme la Lune tourne autour de la Terre, reproduisant un système solaire miniature. Il les appelle les planètes médicéennes, pour faire allégeance à son nouveau protecteur, le grand-duc de Toscane, Côme II de Médicis. Peu après, le savant découvre les taches solaires, prouvant par là que le Soleil, comme la Terre, présente des imperfections. Véritable petite bombe dans le jardin de l'aristotélicisme, le dogme en place depuis plus de 1000 ans. et qui veut que tout le monde se divise en deux. D'un côté, le monde sublunaire, tout ce qui se passe en dessous de la Lune, qui est changeant, imparfait, incertain. Et de l'autre côté, le monde supralunaire, celui du ciel et des astres, qui sont éternels, n'admettent aucun changement car ils sont constitués d'éther et possèdent une vie véritablement divine, parfaite et qui se suffit à elle-même. Avec son télescope, Galilée va faire plusieurs observations qui ont changé à jamais notre vision de l'univers. D'abord, il va découvrir, je vous l'ai dit, les lunes de Jupiter. En 1610, Galilée observe les quatre plus grands satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, connus aujourd'hui sous le nom de lune galiléenne. Cette découverte a démontré que tous les corps célestes ne tournent pas autour de la Terre. Il va également observer les phases de Vénus, similaires à celles de la Lune, c'est-à-dire que Vénus peut être pleine, en quartier, en croissant, gibbeuse, fournissant des preuves solides contre le modèle géocentrique de l'univers. Il va aussi découvrir des montagnes, des cratères sur la Lune. Il a observé que la surface de la Lune n'est pas aussi lisse et parfaite que le pensaient les philosophes aristotéliciens, mais qu'elle est couverte de montagnes et de cratères. Il va par exemple décrire le terminateur, cette limite entre le jour et la nuit sur la Lune, qui permet d'observer particulièrement les reliefs. En observant ces irrégularités du terminateur, il estime que les montagnes lunaires pouvaient atteindre jusqu'à 6 km de hauteur. Enfin, Galilée a étudié les taches solaires, montrant que le Soleil avait des imperfections et qu'il tournait sur lui-même. Tout ça contredit complètement les principes aristotéliciens, car les astres supralunaires ne sont pas aussi parfaits et immuables que les principes d'Aristote le stipulaient. Alors, ces observations, associées avec les toutes nouvelles théories de Nicolas Copernic, amènent Galilée à se déclarer ouvertement copernicien et s'engage vivement dans les querelles scientifiques. Et il va même y mêler imprudemment des questions religieuses. Une idée très répandue, c'est que l'Église et l'Inquisition ont poursuivi et persécuté Galilée, car il avait affirmé que la Terre n'était plus le centre de la Terre et donc que l'homme ne l'était plus non plus. En fait, la vérité est bien plus nuancée. En 1616, le cardinal Robert Bellarmine, en fait Saint Robert Bellarmine car il sera canonisé au XXe siècle, a interdit à Galilée de prêcher le copernicianisme et par la même occasion condamne explicitement l'héliocentrisme et le mouvement de la Terre. À ce moment-là, Galilée s'y engage. La situation de l'Église change cependant. En 1623, un ami de Galilée devient pape sous le nom d'Urbain VIII. Le souverain pontife, sans lever l'interdiction qui frappe Galilée, l'autorise officieusement à évoquer l'héliocentrisme, car il n'est pas frontalement opposé à Copernic et s'intéresse à ses travaux. Sans doute parce que le scientifique n'impose pas sa vision du monde comme la vérité pure et simple, mais qu'il expose une théorie mathématique. Mais la levée des sanctions contre Galilée sont à deux conditions. D'abord, il doit parler du mouvement de la Terre comme simple hypothèse. Ensuite, il doit aussi donner la parole aux défenseurs du géocentrisme. Mais ce n'est pas la stratégie qu'adopte Galilée. Ce dernier, très sûr de lui et de la réalité de l'héliocentrisme, profite du contexte de la réforme pour affirmer haut et fort qu'il détient la vérité et que l'Église a tort. Bon, je schématise un petit peu, mais les historiens sont quand même plutôt d'accord pour parler de Galilée comme d'un orgueilleux persuadé de détenir la vérité pure, incapable d'en apporter cependant la preuve irréfutable. Malgré son génie, il ne voit pas qu'il sème le trouble, y compris parmi ses grands amis dans l'Église catholique, et qu'il va avoir de gros ennuis s'il ne fait pas profil bas. Copernic, lui, ne marchait pas sur les plates-bandes de l'Église, en outrepassant son statut de savant. Ce qui a posé problème n'était donc pas tant la théorie de l'héliocentrisme en tant que telle, mais le fait que Galilée prétende pouvoir réinterpréter l'Écriture à la place de l'Église. Mais plutôt que de pousser plus loin ses recherches et apporter les preuves de ses dires, Galilée remue ciel et terre pour se faire entendre. Il fait paraître le dialogue entre les deux plus grands systèmes du monde, où Galilée introduit trois personnages. Salviati, qui représente sa propre personne, Simplicius, qui défend les conceptions antiques sur l'immobilité de la Terre, et Sagredo, qui est censé être neutre. En fait, Simplicius est ridiculisé au début de l'ouvrage. Il subit le feu croisé des deux autres personnages. Galilée, pour défendre le double mouvement de la Terre, expose dans ce livre une physique basée sur le principe d'inertie, qu'il ne parvient toutefois pas à énoncer correctement. En fait, l'énoncé de ce principe viendra un peu plus tard, sous la plume de Descartes. Galilée commet donc deux maladresses. D'abord, il présente une preuve du mouvement de la Terre qui est contraire, ce qui est contraire aux arguments avec le pape. Ce dernier veut qu'on évoque le mouvement uniquement sous forme d'hypothèse, ce qui exclut donc de faire un recours aux preuves. Et plus dramatique encore, la preuve de Galilée, basée sur les marées, est fausse. La deuxième maladresse de Galilée, c'est de mettre dans la bouche de Simplicius un argument que le pape aimait à utiliser. Car Urbain VIII avait aussi ses propres théories et un esprit très scientifique. Les adversaires du savant ont beau jeu d'exploiter ce point pour dire que Galilée est un perfide qui assimile le pape à un personnage ridicule. Le pontife, en furie, souhaite alors le procès de Galilée. Alors ce n'est pas la théorie de Galilée qui est condamnée par le pape, mais bien son manque de preuves et le fait qu'il nargue l'Église par des écrits blasphématoires. Il ne faut cependant pas réduire ce procès à une mésentente entre deux hommes. Il s'explique aussi par la situation politique à l'intérieur de l'Église, la guerre de 30 ans qui ravage l'Europe centrale. Le pape est en effet violemment attaqué pour son immobilisme. Il est accusé d'être du parti de la France, nation engagée dans la guerre aux côtés des protestants. Avec ce procès, le souverain pontife entend utiliser une question qui peut faire l'unanimité des chrétiens, les catholiques comme les réformés. Et si on pense souvent à tort que Galilée a été persécuté par l'Église et l'Inquisition, voire même brûlé par ce tribunal, vous trouverez des affirmations de ce type sur Internet, hein, donc pensez toujours bien à vérifier vos sources, c'est probablement parce qu'on le confond avec Giordano Bruno. Giordano Bruno, c'est un frère dominicain, un savant napolitain, qui poursuit les travaux de Nicolas Copernic et qui développe une théorie héliocentrique et tente de la démontrer de manière philosophique et de démontrer l'existence d'un univers infini, dépourvu de centre comme de circonférence, peuplé, et je le cite, d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques aux nôtres. L'Inquisition le poursuit pour son goût de la magie. Il est accusé d'athéisme, d'hérésie, notamment pour sa théorie de la réincarnation des âmes, et ses écrits jugés blasphématoires où il affirme que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un simple mage habile, et que Satan sera finalement sauvé. Il réfute aussi la transsubstantiation, la Trinité et la virginité de la Vierge Marie. À l'issue d'un procès qui dure 8 ans, ponctué d'interrogatoires menés par le même cardinal Robert Bellarmine, et des propositions de rétractation qu'il accepte puis rejette, le pape Clément VIII le fait déclarer hérétique. Il est livré aux autorités séculaires et brûlé vif en 1600. Mais ça, c'est pas du tout l'histoire de Galilée. Galilée sera condamné le 22 juin 1633 pour ne pas avoir respecté son engagement de 1616 et pour avoir réussi à faire imprimer son livre en mentant par omission sur cet engagement, pour s'être rendu véhémentement suspect d'hérésie, en ayant soutenu la fausse doctrine du mouvement de la Terre et de l'immobilité du Soleil. Il est condamné à la prison formelle pour un temps indéterminé, mais il ne sera jamais incarcéré. D'abord assigné à résidence à l'ambassade de Toscane, puis chez son ami à l'archevêché de Sienne. Et enfin, en 1633, dans sa villa d'Arcetri, Galilée, lui, recevra de nombreuses visites et s'éteindra paisiblement le 8 janvier 1642.